chers auditeurs, bonjour. Depuis 3 semaines, nous parlons du chant grégorien avec Frédéric Rentière, qui est à la fois chercheur et musicien, chantre médiéviste, comme vous aimez vous définir, Frédéric Rentière. Oui. Alors, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets. On a parlé de la raison pour laquelle on chantait lors de la liturgie. Est-ce que le chant grégorien avait un pouvoir? Est-ce qu'on peut chanter le chant grégorien à 2 voix? Au fond, on parle depuis 3 semaines du chant grégorien, mais j'ai envie de poser une question. Comment est-ce qu'on sait tout cela? Comment est-ce qu'on accède au chant grégorien? Est-ce qu'il y a des partitions? Enfin, on sait qu'il y en a, mais oui. En même temps, elles ne sont pas tout à fait comme les partitions que nous connaissons. Oui. J'aimerais donc que nous parlions aujourd'hui de la notation. Pourquoi noter et comment noter le chant grégorien?
Alors, quand on dit chant grégorien, on pense tout de suite à la notation carrée. Donc effectivement, cette notation avec des portées qui contient non pas 5 lignes comme on connaît aujourd'hui, mais 4 lignes, mais qui est déjà une notation tardive par rapport à la tradition orale du chant grégorien, la période vraiment, l'âge d'or du chant grégorien qui est situé entre le 9e et 10e siècle. Si vraiment on veut revenir aux sources de la pratique du chant grégorien, on est obligé de remonter donc plus en amont, ce qu'on appelle au manuscrit neumatique. Alors c'est un mot qu'on ne connaît pas, le mot neume en fait, qui viendrait du mot grec pneuma, souffle, voilà, spiritus en latin, qui en fait serait la notation du mouvement de la voix, non pas des hauteurs de son, comme on a sur une partition de musique moderne.
Par les notes en fait.
Voilà, la partition ne nous rappelle pas les notes, nous rappelle pas la mélodie qu'on aurait oubliée, non, parce que ça, les chantres étaient censés la connaître par cœur. Par contre, elles vont indiquer aux chantres toutes les multiples inflexions du chant qui vont faire que le chant va être bien chanté. C'est ça, en fait.
C'est curieux. Donc, notation pneumatique.
Ce
sont des partitions spirituelles au sens propre, si je puis dire.
Oui, elles notent le mouvement du souffle de la voix, oui.
C'est très intéressant aussi de voir que l'on se concentre sur un aspect ou plusieurs aspects, mais pas ceux qui vont dominer plus tard. Parce que plus tard, par exemple, dans la musique baroque, classique, romantique, on note les hauteurs des notes avant tout. Enfin, évidemment, le rythme, etc., mais les hauteurs sont très, très importantes.
Effectivement, c'est la partition remplace la mémoire, j'ai l'impression. Or que quand on est dans les manuscrits pneumatiques, la partition ne peut, enfin, c'est pas une partition en soi, mais finalement cette notation ne nous sert à rien si on ne se souvient pas de la mélodie au moment même où on la déchiffre.
Ça me fait vraiment penser, je ne peux pas m'empêcher de penser à Paul Ricoeur qui reprenait en fait le mythe de l'invention de l'écriture dans le Phèdre de Platon, où l'écriture est un pharmacon, une sorte de médicament à double tranchant. Je ne sais pas si vous connaissez ce mythe où en fait l'écriture c'est à la fois un remède contre l'oubli, mais en même temps un poison contre la mémoire. Puisque lorsqu'on note, la mémoire se décharge de cela. Vous savez, c'est quand vous avez un carnet d'adresses, vous ne les retenez pas par cœur, les numéros de téléphone de vos amis.
On ne les retient jamais, en général.
Et au fond, vous nous dites, Frédéric Rentière, qu'avec les partitions pneumatiques, la notation du chant grégorien, on est un peu à mi-chemin entre un nez de mémoire et les partitions telles que nous les connaîtrons plus tard.
Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que ces partitions sont comme des guides, en fait. Simplement des guides qui nous disent là, allonger la syllabe, là, la modulation doit aller plus vite, là, il faut presser le mouvement, là, il faut répéter la note 4 fois, 2 fois, 3 fois. Mais à aucun moment, la partition va nous dire chanter telle note.
En même temps, on est censé le savoir. Nos auditeurs ne le voient pas, mais moi, je suis béat d'admiration, Frédéric Rentière, puisque je vois une sorte de livre assez mystérieux avec plein de signes, des choses en noir, des choses en rouge. Ça semble quand même assez compliqué. Complexe, assez dense. En tout cas, un profane ne saurait pas se rappeler de ce qu'il connaît.
La première fois que j'ai découvert cette notation, je n'y comprenais rien du tout. C'était normal, puisque moi, je partais de ma formation de musicien classique, et j'étais complètement dépossédé. Je n'avais aucun élément, en fait, pour me repérer. Mais ce que je recherchais, ce que j'ai pressenti dans cette notation, c'est la notation du mouvement de la voix, ce qu'on appelle l'agogie en musique, c'est-à-dire ce mouvement qui, moi, me fascinait et que je recherchais. Mmh. Alors, effectivement, pour justement faire rentrer un peu plus les auditeurs dans le vif du sujet, je propose de commenter un court passage d'un chant de communion, donc un chant qui est chanté pendant la procession des fidèles vers l'Eucharistie, voilà, et qui donc est fait est pr- est sur le verset 3 du psaume 109, « In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genuite ». Alors je vais justement reprononcer, parce que ce qui est très important, ce que la notation pneumatique, première information que donne la notation pneumatique, c'est la prosodie, c'est-à-dire les élans du texte, les accents du latin, et le rythme, la vitesse avec laquelle on va dire ce texte. Donc là, si je suis les pneumes, justement...
Est-ce qu'on pourrait juste redire à nos auditeurs le texte du psaume en français ?
En français, donc. Je t'ai engendré, donc souvent les chrétiens l'ont interprété comme un dialogue du Père avec le Fils. Donc, dans la splendeur des saints, depuis le ventre de la femme, ex utero, avant Lucifer, je t'ai engendré. Donc, plusieurs interprétations possibles, évidemment. Je vous laisse Michel, justement, vous connaissez certainement bien mieux que moi. Oui. Voilà. Et donc, le scribe, donc là, va nous indiquer justement. Alors, il y a évidemment plusieurs versions de cette communion. J'ai choisi celle du manuscrit d'Einsiedeln, qui est en fait un manuscrit, le premier graduel complet neumé. C'est-à-dire, le graduel, c'est le livre du chant de la messe. Et c'est le premier manuscrit qui est complètement neumé du début jusqu'à la fin.
Neumé, c'est-à-dire
avec tous ces signes, finalement, d'expression, qui vont être très précieux pour nous aujourd'hui, pour restituer le chant grégorien. Donc ce graduel est daté d'entre 960 et 970, vraiment l'époque où jusqu'à l'an 1000, tous les scriptoria vont commencer à noter tout le chant grégorien. Alors, donc, le texte, je psalmodie... In splendoribus sanctorum. Alors, cette psalmodie commence sur la corde de Fa. Donc, on est sur un mode de Fa. Et donc, il est normal de commencer par psalmodier sur la note de Fa. Et donc, le scribe va, avec énormément de signes, de détails, va essayer de nous faire comprendre justement comment il faut prononcer ce texte. Alors d'abord, il va rajouter, alors là justement, il y a plusieurs techniques pour les scribes. Alors la première technique va être de ce qu'on appelle l'épisème. Qu'est-ce que c'est que l'épisème ? C'est un signe qu'on rajoute sur le signe de la note et qui indique qu'on allonge. Alors le scribe nous demande de ne pas dire « in splendoribus », mais il nous demande de dire « In splendoribus. Premier détail, mais très important.
C'est-à-dire, déjà avec cette notation, on peut prononcer le texte selon le bon rythme.
Selon le bon rythme, et alors un rythme qui va être, parce que là, c'était le double enjeu à l'époque carolingienne, était un, d'avoir une diction qui soit parfaitement compréhensible, donc il y a l'intelligibilité du texte qui est en question, mais il y a aussi l'expression du texte, une diction qui soit convaincante, qui soit émouvante, puisque là, on revient dans la question justement du pouvoir du chant grégorien. On est vraiment à la lisière entre la pratique et la question très importante du pouvoir pour les théologiens. Donc là, effectivement, déjà, première indication, in splendor. Et tout de suite, le scribe va rajouter une petite lettre, après, au-dessus du neum sur la syllabe splen, la lettre C, qui est une abréviation, on a beaucoup d'abréviations dans les manuscrits, c'est l'abréviation de l'indication celeritaire, c'est-à-dire en accélérant, en avançant. Donc il ne veut pas qu'on fasse in splendoribus, mais in splendoribus. Il insiste bien sur la rapidité de la deuxième syllabe.
En fait, en quelque sorte, on note d'une part le rythme, d'autre part, est-ce qu'on pourrait dire le tempo ?
Alors, pas vraiment de tempo, parce qu'il n'y a pas de rythme de manière abstraite. Il n'y a pas de rythme. Le seul rythme qui est donné, c'est très augustinien, c'est le rythme du latin, c'est le rythme de la langue.
D'accord.
Et ce que veulent les scribes, c'est que le chantre restitue le rythme de la langue.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors est-ce que c'est la vitesse de la phrase?
Ce sont les proportions entre les syllabes, en fait. Mm-hmm. Le fait que « in » est un peu long, « splen » est très court, que « dor » va être très long. Alors justement, le scribe là va redoubler le signe pour dire que c'est « in splendoribus ». Alors au niveau du chant, concrètement, ça va se matérialiser par un redoublement du son. On a une époque où on a beaucoup d'ornements sur la même note. C'est très courant, c'est une technique qui s'est perdue après dans la musique occidentale, mais qui était très important, qu'on a sous les appellations de bivirga, bistropha, trivirga, la trivirga n'existe pas, mais tristropha par exemple.
Est-ce qu'on pourrait juste entendre ce premier mot chanté comme vous l'aviez fait tout à l'heure pour voir justement
voilà,
ce rythme?
Voilà, je vais essayer vraiment de mettre en pratique toutes les indications que j'ai sous les yeux. In splendoribus sanctorum. Alors, je suis allé un peu plus loin, vous avez entendu, in splendoribus sanctorum. Alors, c'est bi virga, justement, qui se répète, sont en fait un redoublement du son qui va bien justifier l'allongement de la syllabe. In splendoribus. Et ensuite, le scribe va demander au chantre de ralentir la diction sur sanctorum, en rajoutant donc de nouveau un signe d'épisème, cette fois-ci sur un œum de deux sons qui descendent, et que les médiévaux appelaient la clivis ou la clinis, deux sons qui descendent. Donc du coup, quand je vais chanter, je vais ralentir la diction sur sanctorum. In splendoribus sanctorum. Je sais que je ne dois pas faire in splendoribus sanctorum. Ça, c'est vraiment proscrit, justement, par le scribe.
Et pour à nos oreilles profanes, la différence n'est pas marquante, mais j'imagine, c'est comme si on jouait quelque chose en majeur ou en mineur.
Oui.
Enfin, c'est vraiment pas du tout la
effectivement,
même rendu.
C'est un temps, en fait, un allongement du temps de la syllabe qui va avec le pouvoir du mot, justement, le pouvoir qu'il est censé avoir.
Frédéric Rentière, est-ce qu'on pourrait reprendre un petit peu dans l'ordre et redire quels sont exactement les paramètres qui sont notés? Alors, vous nous aviez dit que les notes ne sont pas notées, les notes absolues, si je puis dire, on ne peut pas dire c'est un ré, sur, c'est un la, etc. En revanche, les rapports entre les notes, les intervalles sont notés, sont indiqués en quelque sorte?
Alors, les intervalles non plus. Alors, ils sont indiqués à l'aide de lettres qui sont ajoutées, mais ils sont indiqués de manière très relative, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quel intervalle il s'agit. Ce n'est pas précisé. Sauf dans d'autres manuscrits qui sont des manuscrits
plus tardifs, j'imagine.
Pas nécessairement, mais où là, les scribes vont noter que les hauteurs de notes avec un système alphabétique. Mais ça n'a rien à voir. C'est hélas pour retenir les mélodies. Mais quand on est dans un manuscrit pneumatique, il n'y a aucune indication d'intervalle, ni de hauteur, ni même d'intervalle.
Donc,
sauf dans certains cas avec les lettres.
Donc, ce n'est pas vraiment la chose visée, ni les hauteurs, ni les intervalles.
Non.
En revanche, il y a les quantités rythmiques.
Voilà. Donc là, j'ai choisi un exemple vraiment qui met en valeur les quantités rythmiques, les syllabes courtes, les syllabes longues.
Donc, d'une part,
ce
en quelque sorte,
la prosodie.
Voilà, la prosodie ou la diction.
Ou la diction, voilà, les deux termes.
Alors, ensuite, il y a les mouvements de la voix, c'est ça?
Voilà.
C'est l'agogie.
L'agogie. Alors, effectivement, c'est le deuxième paramètre que la notation pneumatique va permettre, justement, de contrôler, de délimiter de manière concrète. Alors, dans cette même communion, justement, on a à la suite un début de modulation. Alors, j'ai choisi après un autre exemple plus modulant. Mais alors, donc, le début de l'introduction est donc cette psalmodie. In splendoribus sanctorum. Donc là, il y a ce ralentissement de la diction sur sanctorum. Et ensuite, exsud. Là, le scribe va nous indiquer un autre signe, un changement mélodique, donc changement de corde, montée de tierce. Mais il ne veut pas qu'on fasse exsud. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on appuie la première note, la note grave.
Et il peut l'indiquer, ça.
Il l'indique. Alors, il l'indique par un œum qu'on appelle le salicus, qui littéralement veut dire le œum rebondi, le œum qui monte vite, et qui est très souvent lié à un accent important, à un mot très important de la psalmodie. Et là, le « utero » est important.
Qu'est-ce que ça veut dire, « utero » ?
Donc, le ventre, effectivement, c'est le ventre de la femme, littéralement, l'utérus.
Compris, sans doute,
le ventre de Marie, évidemment, de Marie, interprété par les chrétiens comme ça. Et donc, « ex ute », donc, les médiévaux appelaient une « intentio cordi », c'est-à-dire une intention du chantre qui va donc exprimer de manière un peu plus forte le sens du texte. Exutero. Et ensuite, une modulation qui est organisée de manière très précise. Exutero. D'abord, le scribe nous demande de tenir la première note. Et ensuite, il va nous demander de faire rapidement les deux qui suivent. Exutero. Donc, en fait, c'est une modulation de cinq notes, dont la première et la quatrième et la cinquième sont longues seulement.
Et ça, c'est absolument précis.
Tout est dit.
Est dit. Donc, on a la diction, c'est-à-dire les quantités rythmiques, le mouvement de la voix, c'est-à-dire l'agogie, Il y a quand même l'intonation, parce que vous faites des inflexions mélodiques à chaque fois les mêmes.
Oui.
Donc, c'est que vous repérez les choses sur votre partition.
Alors,
et vous connaissez la mélodie.
Voilà.
Vous.
Alors, c'est-à-dire que je connais préalablement la mélodie, parce que je ne serais pas en mesure, si je ne la connaissais pas, de pouvoir interpréter la signification de ces signes, justement. Mais parce que je connais la mélodie, je vais justement, des fois, corriger quelques intonations quand le scribe me dit plus haut ou plus bas. Parce que très souvent, le scribe va rajouter des corrections mélodiques avec des lettres alphabétiques. Et c'est ce qui me permet, selon les manuscrits, de faire une version qui va être vraiment liée à un manuscrit plutôt qu'à un autre.
Donc la diction, le mouvement de la voix, l'intonation, mais aussi la vitesse de l'élocution, c'est-à-dire la psalmodie elle-même,
voilà.
À proprement
alors,
parler.
La psalmodie, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu tout ça, finalement. La psalmodie, c'est à la fois la prosodie, la diction, c'est aussi le mouvement de la modulation, puisqu'on l'a bien vu au début dans la première émission, que finalement la distinction entre psalmodie et psalmodie ornée n'est pas très claire dans les textes. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un peu de modulation dans les textes. Alors, dans le cas de figure présenté, effectivement, la psalmodie, c'est un peu tout ça, finalement. C'est le rythme du texte, la vitesse de la diction, le mouvement de la modulation, si on accélère la modulation, si on la ralentit, etc. Après, on va avoir des exemples plus extrêmes, où là, extrêmement orné, qui était réservé à des chantres professionnels de l'époque.
On n'oserait pas dire virtuose.
Si, voilà, tout à fait. Alors, on peut vraiment dire des virtuoses. D'ailleurs, dans le milieu du chant grégorien, beaucoup appellent ça les divas du grégorien. C'est vrai que ces divas du grégorien, même aujourd'hui, quand on veut faire chanter ces morceaux de diva, on ne va pas les donner à un débutant, on va les donner à un chanteur, quelqu'un d'aguerri qui connaît bien le style, parce que c'est très difficile à chanter.
Mais alors, permettez-moi, Frédéric Rentière, de marquer une surprise. Nous sommes partis en disant que les neumes, finalement, la notation pneumatique, dont vous faisiez le rapprochement avec le terme pneuma, donc la notation spirituelle, celle qui marque le passage de la voix, le souffle de la voix, de prime abord est moins précise que les notations que nous connaissons plus tard, les partitions qui notent notamment avec précision les intervalles, les rythmes assez précis, etc., mais surtout les intervalles et les notes. Donc, on n'a pas ni les notes ni les intervalles dans la notation pneumatique, mais en revanche, on a un certain nombre de paramètres très précisément notés, qui ne sont absolument pas notés, par exemple, dans les airs des grands castrats italiens ou
tout
dans les
fait.
Grands airs d'opéra, même wagnériens.
Tout à fait. Alors, connaissant, ayant moi-même suivi une formation de chanteur pendant beaucoup d'années, je connais ces répertoires et je sais très bien que ces paramètres-là ne sont absolument pas indiqués. C'est à moi, en tant que chanteur, en tant qu'artiste,
d'interpréter en fait.
Et de proposer, mais je n'ai aucune indication sur la partition. En revanche, si vraiment je suis la partie de manuscrit pneumatique, il y a un moment donné, d'ailleurs avec mes élèves on s'en rend compte, souvent ils me disent mais finalement je ne pensais pas que le chant grégorien était aussi précis.
Aussi contraignant peut-être.
Aussi contraignant, même oui contraignant dans la mesure où quand on a réussi à faire une fois la version telle qu'elle est indiquée.
On ne peut pas s'en démordre.
Enfin, oui c'est ça, c'est-à-dire qu'alors on ne la fera jamais de la même manière parce que c'est impossible. Mais on se rend compte quand même que tout était dit et que finalement c'est extrêmement précis et ces paramètres-là finalement, cette conscience-là, je pense, s'est perdue avec la notation des hauteurs justement.
C'est formidable cette espèce de souplesse, ces images dynamiques qui réactivent la mémoire des chants d'une part.
Voilà, donc alors c'est vraiment, c'est un thème très important là que vous évoquez. Effectivement, c'est vraiment l'image. Alors c'est la thèse d'Olivier Culin, un musicologue passionnant qui a dans son ouvrage L'image musique, c'est ça qu'il explique justement. Il prend beaucoup de photos, il y a beaucoup de photos de manuscrits pneumatiques justement. Il explique bien que la pneumatique n'est qu'une icône du son. Alors si on connaît le son, si le son est dans la mémoire, cette icône, elle va réactiver l'image du son et elle va instantanément rappeler au chant la formule.
Si vous utilisez le terme de l'icône, est-ce qu'on peut dire que ça a presque une fonction liturgique ? Est-ce que, comme l'icône dans la traduction orthodoxe, rappelle celui que l'on adore, on n'adore pas l'icône, mais celui qu'il représente. Est-ce que, à travers cette musique aussi, enfin, l'image de la musique nous renvoie au musicien suprême lui-même? Enfin, je ne sais pas,
Alors, le livre, en tout cas, le neume, en tout cas, l'image pneumatique en elle-même,
n'a pas cette valeur-là
d'icône au sens liturgique du terme, même s'il est une icône en tant qu'image pure, vraiment, en tant que représentation là, pure du son. En revanche, le livre liturgique, lui, a une fonction d'icône. C'est-à-dire qu'il est vraiment
objet liturgique, signe
du divin. Donc, on retrouve à un autre niveau dans le livre liturgique cette chose-là.
Alors, est-ce que le nombre de signes est très important? Parce que vous avez mentionné plusieurs, ils ont des noms en latin.
Latin, grec, souvent, c'est les moines de Solesmes ont utilisé beaucoup de termes grecs, oui.
Mais combien de signes est-ce qu'on répertorie?
Alors, selon les notations, oui. Alors effectivement, là, je vous ai parlé... en tout cas des signes, ce qu'on appelle les signes distinctifs, c'est-à-dire ce qui permettent, aujourd'hui je ne parle que des signes distinctifs, c'est-à-dire finalement ce qui permet de voir les allongements, les raccourcissements, l'accélération du mouvement, etc. On a parlé de l'épisème, donc un signe qu'on rajoute. On n'a pas parlé d'un, parce que là on n'aborde pas la notation de l'an, une autre notation manuscrit de l'an, où là on a souvent une fragmentation, c'est-à-dire le scribe prend le neume et il le décompose en petites pièces, et c'est sa façon à lui de dire qu'il faut ralentir quand on chante.
Bon, il y a plusieurs types de notation.
Voilà, ouais. Plusieurs signes distinctifs. On a l'ajout de lettres alphabétiques. Il y a des manuscrits, il y a énormément de lettres partout qui sont rajoutées.
Mais à ce moment-là, elle renvoie à des notes.
Alors, elle renvoie soit à l'intervalle en lui-même en disant plus haut, plus grand, plus bas, etc. Ou elle renvoie au mouvement de la voix, plus lent, plus vite, en enchaînant tout de suite. On a beaucoup d'aussi d'indications qui nous disent qu'il ne faut pas couper la phrase, qu'il faut continuer, ou l'inverse, nous disent attendez sur ce son-là, on reprend après, etc. On a d'autres indications dont je n'ai pas encore parlé, donc je vais parler maintenant, qui est très importante, dont on entend beaucoup parler, qui est la liquescence. Alors la liquescence, c'est un terme qui apparaît au XIe siècle, c'est Guy d'Arezzo qui en parle dans son Micrologus, donc un traité composé vers 1025, qui parle justement, explique que quand le scribe écrit un homme et qu'il lâche en fait la fin, il fait une espèce de courbe quand il termine son œum, ce n'est pas une erreur, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une faute du scribe ou une faute d'inattention, c'est simplement qu'il fait une liquescence.
Qu'est-ce que c'est qu'une liquescence?
Alors une liquescence, c'est-à-dire qu'il indique au chantre qu'il doit prononcer avec douceur la consonne qui termine le mot ou la consonne qui est au milieu ou au début du mot.
C'est-à-dire on fait même attention non seulement à la couleur des voyelles, mais aux couleurs des consonnes.
Voilà, exactement. Alors ça, c'est un autre paramètre très important du chant qui, à mon avis, aussi a disparu avec le fait de téléauteur, c'est-à-dire la place des consonnes. Donc, par exemple, là, j'ai pris un exemple beaucoup plus orné, justement. Donc, un graduel, le graduel exsurge, qui est chanté le troisième dimanche de Carême, et qui, lui, justement, emploie notamment des signes de liquescence et tout autre et aussi des signes alors qu'on va appeler une dernière catégorie de signes qu'on n'a pas encore abordé qu'on appelle l'oriscus. Alors c'est un nom bizarre, c'est en fait un signe on pourrait dire un peu clé qu'on retrouve dans plein de compositions pneumatiques complexes et qui est un signe ornemental qui dit que là on a il faut passer vite sur la note. Passer vite sur la note et qu'il faut aller vers et que la note qui suit finalement est la plus importante. Alors par exemple, au début du graduel, on va avoir justement un signe de riscus. Alors, je vais d'abord chanter le début. Exsurge. Alors, vous avez certainement entendu quand je fais exo, là je fais un ornement. C'est cet oriscus là justement que je fais.
Oriscus, rappelez-nous encore une fois
oriscus,
qu'est-ce que c'est.
Oriscus, voilà, donc O-R-I-S-C-U-S. Cet oriscus, en fait, il a été vraiment intercalé entre deux sons stables, en fait. Et donc, quand il est intercalé dans cette configuration-là, on va l'appeler le coulisma, c'est-à-dire, en fait, un glissement. La voix glisse d'une corde grave vers une corde aiguë.
Vous pouvez juste faire l'oriscus.
Alors, donc, exou, ça, c'est le son, donc, la première corde. Zou, l'oriscus, c'est un son instable. Je peux le faire en l'isolant.
C'est une note de passage.
Voilà, c'est une note de passage très instable qui va glisser vers la note aiguë, zo, la deuxième corde importante de ce mode. Donc en fait, c'est un ornement qui vient certainement des chantres byzantins, puisque c'est un terme, le coulisma est un terme byzantin, et on sait qu'au IXe siècle, il y avait des échanges courants entre moines byzantins et moines latins.
Mais vous savez ce qui me frappe, Frédéric Rentière, tout de suite deux parallèles qui viennent à l'esprit, la musique indienne d'une part, avec le rag indien, vous savez, avec des notes fixes, les notes stables et puis les degrés mobiles, ce qu'on appelle les degrés mobiles.
C'est tout à fait ça.
Avec vraiment une manière d'accéder à certains sons, des manières d'en départir, etc. Et d'autre part, quant à la notation, vraiment, à ce que l'on retrouve dans la tradition massorétique juive, hébraïque, dans la notation de la Bible hébraïque, puisqu'il y a au moins trois niveaux. D'abord le texte consonantique, ensuite les voyelles, dont la notation a été rajoutée plus tard. Enfin, il y avait trois manières de les noter. On a retenu ce qu'on appelle l'hébreu, la tradition de Tibériade. Et enfin, ces signes agogiques qui permettent à la fois de structurer la phrase, mais qui aussi servaient au chantre à la synagogue, au chazan, de psalmodier correctement. Alors, ce troisième aspect est beaucoup plus oral. Je veux dire, c'est quelque chose qui se transmet dans une tradition. C'est beaucoup moins élaboré, enfin, savoir beaucoup plus sur le vif. Mais au fond, c'est aussi l'occasion de se souvenir que le chant grégorien, en grande partie, évidemment, est redevable à la tradition grecque et latine, mais aussi au chant synagogal, à la tradition synagogale, ne serait-ce qu'en termes de lecture de texte, hein, où la tradition chrétienne a repris, d'une part, la lecture de la Torah et la Haftara, c'est-à-dire les parties prophétiques correspondantes. C'est ce qui a donné dans le Nouveau Testament, enfin dans l'Église, la lecture de l'Évangile et puis de l'Épître correspondante. Mais au fond, on voit cette filiation même dans la notation. Enfin, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, enfin, dans ce lien
alors,
entre les traditions.
Effectivement, ce lien avec la tradition, j'ai essayé de le mettre en place justement à l'Université Paris-Sorbonne avec la journée, une journée sur les traditions vocales cultuelles que j'ai pu organiser avec Salim Dada, justement sur chantre chrétien, donc il y a des diverses églises chrétiennes, chantre de l'islam, et enfin chanteur muezzin, donc et puis donc Hatsan, donc les chantres de synagogue. Voilà, et effectivement on a constaté dans les trois traditions ce que vous décrivez. Alors évidemment, en tout cas, cette pointe orale, ces témoignages finalement du mouvement de la voix et de la juste place du texte, j'ai retrouvé en tout cas la même caractéristique.
Frédéric Rentière, je voudrais signaler en fin de cette émission que vous êtes non seulement théoricien mais aussi praticien, pédagogue, et que cet été vous animez deux stages du 21 au 27 juillet en Ardèche pour des gens qui voudraient s'initier au chant grégorien, et puis un autre stage du 25 au 31 août en Savoie pour, disons, des personnes qui sont déjà familiarisées avec le grégorien, et que tous ceux qui souhaiteraient s'inscrire pourraient trouver des informations sur votre site.
Donc www.frédéricrentière.com.
Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Merci Michel.